RFI et TV5 Monde vous présentent Afrique Presse. Denise Epoté.
Bienvenue dans Afrique Presse, l'émission débat RFI TV5 Monde consacrée à l'actualité africaine et internationale de la semaine avec Hassan Diop de Radio France Internationale, Vincent Jeux de l'Express et Louis Magloire Kemayou du Club de l'information africaine. Au sommaire, un seul sujet, la question du troisième mandat qu'Alassane Ouattara n'exclut pas de briguer en 2020. À 2 ans de la présidentielle et alors qu'au sein de l'alliance des oufouettistes, la création du parti unifié et de l'alternance divise, cette potentielle candidature pourrait raviver les tensions observées ces derniers mois entre les militants du RDR d'Alassane Ouattara et ceux du PDCI d'Henri Conan-Bédier. Hassan Diop, au lendemain de l'élection de 2010, Alassane Ouattara avait déclaré qu'il ne ferait qu'un mandat. 5 ans plus tard, il en briguait un second, comme l'y autorisait la Constitution de 2000. Il y a tout juste un an, il affirmait encore qu'il n'avait pas besoin d'un troisième mandat. Comment expliquer ce revirement ?
Écoutez, moi je pense que ce serait hâtif de dire que c'est un revirement. Pour l'instant, je pense que...
Dans les propos, en tout cas.
Dans les propos, oui, c'est une hypothèse. Mais Alassane Ouattara, à ma connaissance, n'a pas encore dit clairement s'il sera oui ou non candidat en 2020. Mais effectivement, il a lancé un coup de sonde, notamment dans cette interview qui a fait couler beaucoup d'encre à Abidjan, dans cette interview qu'il a accordée à Jeune Afrique. Interview dominée d'ailleurs par des questions économiques. Alors, à supposer que Alassane Ouattara soit candidat à un troisième mandat, il va se heurter à un certain nombre d'obstacles, à commencer par au sein même de ce qui constitue aujourd'hui la majorité présidentielle, d'ailleurs depuis ce front anti-Gbagbo qui remonte à 2010. Autrement dit, il aura sur sa route un candidat sans doute du FPI, puisque le FPI estime qu'au terme de 2 mandats, c'est-à-dire à l'échéance 2020, eh bien, ce sera au tour d'un candidat du PDCI d'être élu. Ensuite, il y a la légalité éventuellement de ce troisième mandat. Cette légalité, il appartient au Conseil constitutionnel ivoirien de dire si oui ou non ce sera un troisième mandat ou une candidature acceptée et constitutionnelle. Alors, je rappelle qu'il y a 4 membres actuellement au Conseil constitutionnel, 4 magistrats, tous nommés par Alassane Ouattara. Enfin, dans l'hypothèse, Denise, d'un troisième mandat d'Alassane Ouattara, eh bien, je pense que cette hypothèse, cette candidature, si elle venait à passer toutes ces étapes, eh bien, ça braquerait tout de même un certain nombre d'Ivoiriens, comme ce fut le cas, souvenons-nous, au Sénégal, avec Abdoulaye Wade, qui était parvenu à être candidat à un troisième mandat, mais qui a été battu dans les urnes, comme on le sait.
Louis Magloire Kemayou, Alassane Ouattara veut-il faire pression sur ses alliés pour être le seul à désigner son successeur en 2020, ou alors subit-il la pression de son clan familial, notamment, qui lui dit que comme Biya ou comme Robert Mugabe, il peut, à 78 ans, conserver le pouvoir ?
Même si on ne sort de l'ambiguïté qu'à ses dépens, on peut y rester à ses dépens également. Regardez le cas de la RDC avec Joseph Kabila, il ne s'est toujours pas prononcé, ce qui fait qu'aujourd'hui la cristallisation et la crispation autour du fait qu'il n'a rien dit pose un véritable problème sur la scène politique au Congo. Maintenant, pour en venir à Ouattara, il a tort, et il a 1000 fois tort, de laisser cette ambiguïté se poursuivre. Pour une raison simple, c'est qu'il est arrivé comme l'espoir qui allait permettre à la Côte d'Ivoire de renouer avec le jeu politique et démocratique normal. S'il sort par la petite porte en étant celui qui a à nouveau plongé la Côte d'Ivoire dans un conflit, je pense que ça aurait été un échec total, même s'il a à son actif aujourd'hui des réussites économiques palpables et bien d'autres chantiers sur lesquels il a réussi. Il aurait lourdement tort d'écouter les sirènes qui lui demandent de repartir pour un nouveau mandat, un troisième éventuel mandat, parce que non seulement dans son camp, ça fera beaucoup de grabuge. Je pense que au niveau des soldats qui l'ont accompagné, on a vu à quel point ils ont manifesté pour obtenir leur solde, que ce soit au niveau de ses alliés politiques, oui. Les mutineries qui sont produites, ou que ce soit dans l'opposition. Il n'y a personne aujourd'hui qui pourrait soutenir une tentative aussi suicidaire de la part de l'actuel président ivoirien.
Est-ce que ce troisième mandat, Hassan Diop, c'est la fin de l'alliance des ifouettistes et surtout va isoler le RDR et l'affaiblir ?
Encore une fois, on se place dans l'hypothèse. Alors, si effectivement Alassane Ouattara, pour une raison ou une autre, on va peut-être pouvoir évoquer les raisons qu'il poussera à une troisième candidature, à supposer donc qu'il se porte candidat pour une troisième fois, il va encore une fois de plus se heurter à un refus net du PDCI. Et ce même refus, d'ailleurs, est exprimé déjà
par les jeunes du PDC.
Et puis, pas seulement par les jeunes, mais par la réticence de voir se fonder, se créer ce fameux parti unifié, RHDP, qui inclurait principalement, disons-le, le RDR d'Alassane Ouattara et le PDCI d'Henri Konan-Bédié. Alassane Ouattara veut que ce parti unifié existe avant l'échéance de 2020 pour que tout le monde puisse faire bloc derrière un seul soldat. Peut-être pas lui, mais peut-être celui qu'il choisira. Je ne sais pas. Alors, on avait beaucoup parlé d'Ogon Koulibaly, mais apparemment, il est plutôt, si je peux me permettre ce terme, aux abonnés absents, en ce qui concerne aujourd'hui les dauphins putatifs. Alors, voilà, il est évident que... une troisième candidature d'Alassane Ouattara, je ne dis pas que ça serait un casse-pipe, mais ça serait pas aller au casse-pipe, ça serait aller au casse-pipe, pardon, mais ça serait ajouter un chaos supplémentaire finalement dans ces divisions qui minent aujourd'hui la majorité présidentielle ivoirienne. Il faut le dire, le RHDP.
Cette tentation du troisième mandat, Vincent Jeux, donne raison aux militants du PDCI qui sont hostiles à un parti unifié avant 2020. C'est donc dire que l'alliance des oufouettistes a vécu aujourd'hui.
A-t-elle d'ailleurs jamais vécu vraiment? Il y aura dans quelques jours.
Sauf contre Maduro.
Voilà,
elle a quand même permis quelque chose. Oui.
Mais le 17 juin, sauf changement d'agenda, il y aura un rendez-vous crucial. C'est un bureau politique du PDCI qui vraisemblablement réitérera ce qui a déjà été formulé, c'est-à-dire la question de la fusion partisane n'est pas à l'ordre du jour, je cite. Et puis, rembobinons quand même un tout petit peu le fil de l'histoire. Pardonnez-moi, mais j'ai toujours considéré que le RHDP était au mieux un mariage de raison, donc cimenté par l'hostilité commune à Laurent Gbagbo, mais aussi une alliance contre nature, idéologiquement, historiquement. Enfin, rembobinons le fil de l'histoire. 1993, qui se déchire au chevet d'un Félix Houphouët-Boigny agonisant, c'est le président de l'Assemblée nationale, Henri Konan-Bédié, qui constitutionnellement finira par l'emporter, et le Premier ministre ancien du FMI, Alassane Ouattara. Alors certes, il prendra sa revanche une grosse décennie plus tard, mais...
Et qui avait utilisé de l'ivoirité, M. Bédié.
C'est lui qui l'a instauré.
C'est lui qui l'a instauré.
Légalement.
Et donc, au fond, je crois que chez beaucoup de militants, des deux côtés d'ailleurs, il y a l'impression de se faire forcer la main pour une fusion qui est d'une certaine manière fictive, qui est chimérique. Et donc si Alassane Ouattara pousse trop loin, eh bien il va raviver la thèse, qui est d'ailleurs formulée très explicitement par Bédié lui-même, à savoir nous nous sommes sacrifiés, c'est le mot qu'il emploie, il y a le sacrifice de 2010 puis celui de 2015, c'est à notre tour. Et donc grosso modo, il y aura un candidat PDCI, que ce soit sous la bannière RHDP ou sous son propre étendard. Dernier point qui n'est pas souvent relevé, c'est que la fameuse réforme constitutionnelle de 2016, adoptée par référendum, elle abolit la limitation de l'âge du candidat appelé à briguer la présidence. Remet en selle virtuellement Henri Konan-Bédié, 83 ans, aux fraises.
Lui, Magloire Kemayou, la nouvelle constitution prévoit aussi, celle de 2016, prévoit un ticket président et vice-président. Est-ce que le PDCI est prêt à jouer encore les faiseurs de rois et les seconds rôles?
Tout d'abord, je pense que les alliances politiques ont ceci de mystérieux qu'elles ne reposent sur aucune logique, j'allais dire rationnelle. Le fait est que on peut être ennemi hier, devenir ami aujourd'hui et même partenaire pour 2, 4 ou 5 élections.
Bon, on l'a vu entre les trois, hein.
Voilà.
Alassane, Bédié et Gbagbo, hein.
Tout est possible.
C'est un billard à trois bandes, hein.
Et Soro.
Qu'on n'a pas beaucoup évoqué jusqu'à présent. Mais le fait est que tout cela est possible. Simplement, le PDCI estime avoir été suffisamment porteur d'eau comme ça pour continuer à jouer ce rôle. Donc aujourd'hui, il a besoin de retrouver sa splendeur d'antan et ça passe par un ticket où il est le chef, pas le second.
Et Denise, un éventuel troisième mandat, toujours hypothèse d'Alassane Ouattara.
La tentation
du troisième mandat. Eh bien, poserait aussi la question des principes. Alassane Ouattara se dit un homme de principe, démocrate. Il l'a dit, ses amis l'ont dit, notamment au moment de cette crise post-électorale. Il se présentait donc comme un paragon de la démocratie. Donc sur la question ne serait-ce que des principes, ça serait contradictoire que le même Alassane Ouattara écorne ces principes, ce principe fondamental de l'alternance, l'un des piliers de la démocratie, surtout dans nos pays africains. Il faut aussi dire dans quel contexte. Je veux dire, le contexte sur le plan politique n'est pas forcément brillant. La réconciliation appelée de ses voeux par Alassane Ouattara, une fois qu'il a été confirmé dans son fauteuil présidentiel, n'est pas parachevé, en tout cas, à mon avis.
Et elle a même pas commencé.
Elle a même amorcé.
Voilà. Ensuite, le pays, qu'on le veuille ou pas, compte 300 détenus qui se qualifient eux-mêmes, ou en tout cas dont leurs défenseurs, dont les défenseurs parlent de détenus politiques, puisque ce sont autant de détenus liés à l'ancien régime de Laurent Gbagbo. Et puis on en revient toujours à cette ancienne, c'est-à-dire que depuis la crise post-électorale, on est confronté sous ce régime d'Alassane Ouattara à une justice à deux vitesses. C'est-à-dire, l'une est impitoyable, inflexible, y compris au niveau international, avec les partisans de Gbagbo, et l'autre est plutôt aménageant avec le pouvoir de M. Ouattara. Là aussi, c'est un contexte qui peut avoir son influence, plutôt négatif à mon avis, sur un éventuel troisième mandat d'Alassane Ouattara.
Vincent Hégeux, à propos de réconciliation nationale, c'est vrai que malgré le retour des exilés, elle ne s'est toujours pas faite. Le couple Gbagbo paye le plus fort prix de cette crise post-électorale. Et on a entendu Guillaume Soro dire récemment qu'il était prêt à se rendre à La Haye pour demander pardon à Laurent Gbagbo.
La réconciliation est en cale sèche. En dépit des instances successives qui ont été instaurées, elle n'a jamais vraiment décollé. Alors, si vous voulez, si le troisième mandat était constitutionnellement valide et qu'il était essentiellement consacré à enfin sortir de l'ornière le processus de réconciliation, pourquoi pas. Mais soyons clairs, ce qui n'a pas été fait dans l'état de grâce très relatif du début du premier mandat, ne le sera pas demain, parce que les situations se sont fossilisées, parce que les hostilités se sont cristallisées. Donc hélas, quand on fera le bilan, le moment venu des mandats d'Alassane Ouattara, on ne pourra pas mettre à son crédit ce qu'il avait promis, c'est-à-dire d'être l'acteur de cette réconciliation. Par rapport à Soro, enfin quand même, un petit mot là-dessus, parce que on a fait grand cas du numéro de claquette à la tribune d'un congrès extraordinaire du RDR au Palais des Sports de Trècheville. C'était au début du mois de mai, avec notamment Ambak, donc Ahmed Bakayoko, le ministre de la Défense, et Soro, que l'on sait entretenir des relations plutôt exécrables, jouer les vieux complices. Mais enfin, soyons sérieux. Dire Soro a son propre agenda de ce fameux congrès. Et puis n'oublions pas qu'il y a encore de lourds contentieux, même si on surjoue le réchauffement, avec par exemple son directeur du protocole, surnommé Saul Tosol, qui est toujours en prison après la découverte d'une cache d'armes dans une résidence lui appartenant à Bouaké.
Lui-Magloire Kemayou, alors le rôle de Guillaume Soro, qui était jusqu'à la révision de la Constitution le dauphin constitutionnel.
Oui, alors ce qu'on doit dire, c'est que Guillaume Soro et les forces nouvelles, il faut mettre à leur crédit le fait que la bataille d'Abidjan, c'est eux qui l'ont remportée. La victoire militaire qui a permis...
Avec l'aide française déterminante.
Avec l'aide française, dont Nicolas Sarkozy ne se cache plus. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut mettre à leur actif. Nous ne pouvons pas aujourd'hui considérer que le président ivoirien et toute la machine administrative ivoirienne ne savaient pas qu'il y a des caches d'armes dans le nord de la Côte d'Ivoire. On ne peut pas raisonnablement penser cela. Elles le savaient. Et pourquoi sortent-elles cela par compte-gouttes et à des moments bien précis politiques? C'est qu'il y a aujourd'hui une volonté d'écarter Guillaume Soro et d'écarter les forces nouvelles à travers les mutineries dont elles ont été accusées, parce qu'on estime qu'elles sont nuisibles, qu'elles sont un bagage beaucoup trop lourd à porter. Donc je pense qu'il y a de cela dans ce qui se trame aujourd'hui, et que malheureusement, tant qu'on ne sera pas sorti de ce discours où on donne l'impression à l'international que tout va bien. Bien sûr, il y a les chiffres macroéconomiques qui montrent que ça va plutôt bien pour la Côte d'Ivoire.
De ce côté-là, les succès sont indéniables, sur le plan économique.
Mais ça n'efface pas le fait que tant qu'on n'a pas réconcilié, tant que le pays restera fracturé comme il l'est aujourd'hui, on n'atteindra aucun résultat sur le plan de la réconciliation.
Un mot toujours à Hassan Diop sur Guillaume Soro. Oui. Il fait partie de l'équation de 2010 pour remporter le second tour.
En tout cas, il fait partie des obstacles si M. Alassane Ouattara décidait demain qu'il va briguer un troisième mandat. Guillaume Soro sera là, Henri Konan Bédié sera là, il y aura d'autres qui seront là face à lui, sans parler des opposants qui aujourd'hui sont à tonnes. Je pense honnêtement que le problème d'Alassane Ouattara, c'est-à-dire peut-être pour sortir de la quadrature du cercle, dans cette espèce de piège dans lequel il se mettrait, c'est éventuellement d'organiser une primaire à la française. Voilà, avec toute cette famille politique RHDP, avec des prétendants à tous les étages, leur dire « Ok, tout le monde veut y aller. Bon, alors, organisons en gens responsables une primaire, donc, comme les partis politiques français l'ont fait ces temps derniers, et non à l'américaine, beaucoup plus institutionnalisée. »
C'est ce qu'il avait d'ailleurs dit, Il allait dire « Le meilleur de nous sera désigné pour 2020.
Voilà. » À la limite,
avant de parler de la tentation du troisième mandat.
À la limite, à mon avis, ça, ce serait une éventualité qui serait non seulement peut-être acceptable, peut-être pas accepté par tous ses partisans, mais en tout cas, je pense que le peuple ivoirien, les Ivoiriens, dans leur grande majorité, y verraient beaucoup plus clair. Alors, sur le plan économique, rapidement, tordons quand même le cou à certaines exagérations. C'est vrai que sous Alassane Ouattara, il y a beaucoup de croissance, il y a beaucoup d'argent, etc. Les investisseurs viennent, mais
9% de taux de croissance.
Absolument. Mais le bénéfice de cette croissance, j'ai envie de dire, ne se limite qu'à Abidjan, la capitale. C'est-à-dire, c'est l'immobilier, c'est les matières premières, etc. Le reste de la Côte d'Ivoire souffre grandement. Évidemment, ce n'est pas le seul pays africain, et c'est peut-être pas les plus mal lotis. Les Ivoiriens de l'intérieur souffrent. J'en veux pour preuve que la Côte d'Ivoire a toujours été un pays vers lequel allaient beaucoup d'Africains, les plus pauvres de la sous-région. Aujourd'hui, ce sont de jeunes Ivoiriens qui quittent la Côte d'Ivoire et qui affrontent les dangers de la Méditerranée pour s'exiler, pour aller trouver un meilleur monde ailleurs.
La province souffre, à commencer par la deuxième ville du pays, Bouaké, 800 000 habitants, qui est une ville qui crève de soif aujourd'hui. Vous n'avez plus d'eau courante depuis des semaines dans la plupart des quartiers populaires de Bouaké. Alors, c'est lié à des phénomènes de réchauffement climatique et à l'assèchement d'un lac de retenue, etc. Très bien. Autre dossier sur lequel, économiquement, le bilan d'Alassane Ouattara est critiquable, il n'a pas, loin s'en faut, éradiqué les phénomènes de corruption. Les acteurs économiques, qu'ils soient ivoiriens, africains ou occidentaux, vous le disent. Il y a aujourd'hui encore des pratiques que la morale publique réprouve.
Y compris au sein de sa famille. Mine de rien, quand vous regardez la manière aujourd'hui dont le tissu économique bénéficie de certaines retombées liées à la croissance en Côte d'Ivoire, on ne peut pas dire que ça tombe au-delà du cercle présidentiel ou du cercle de la famille présidentielle. C'est un cercle très restreint quand même qui bénéficie des fruits de cette croissance-là. Et ne pas le dire, c'est dire une demi-vérité ou un demi-mensonge. Ça dépend de la position de laquelle on se trouve.
Alors,
Hassan Diop.
Vincent Hugeux est mieux placé que moi pour parler des premières dames, puisqu'il a écrit un ouvrage là-dessus.
Reine d'Afrique.
Voilà, et ce n'est un secret pour personne que Madame Dominique Ouattara a une influence importante sur les décisions politique et surtout économique de son mari, et que l'entourage et que la famille élargie, même les amis de Madame Ouattara, pour parler vulgairement, vont à la mangeoire à Abidjan.
Limanguer Kamayou, un peu de prospective, jusqu'à quand devrons-nous attendre pour connaître la suite de ce feuilleton?
Moi, je pense que ça va se décanter assez rapidement. Il a intérêt, de toute façon, le président sortant, à ce que ça se décante vite, parce que la confiance des investisseurs, voilà, sur lesquels il compte, elle ne peut pas attendre longtemps. Et donc, il a intérêt à sortir de l'ambiguïté sur ce dossier. Hormis toute la pression qu'il recevra déjà et qu'il commence à recevoir de la part des partis politiques en Côte d'Ivoire, dans son camp comme à l'extérieur, il est obligé de sortir de l'ambiguïté très tôt.
Vincent Hugeux, on a entendu les réactions des jeunes du PDCI, mais toujours rien d'Henri Conan-Bédié lui-même, président du PDCI.
Ah, le sphinx de Daoukro est à la hauteur de sa légende. Il faut toujours beaucoup d'expertise pour décrypter ses oracles. Donc, il laissera entendre, à mon sens, son option et sans doute son hostilité au schéma qui a été pressenti lors de ce fameux bureau politique, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un porte-parole autorisé.
Moi, je crois d'ailleurs qu'au sein de son parti, ce ne sont pas les velléités de candidature qui manquent, au-delà de la
CIA. Des primaires étaient prévues, hein, au sein du PDCI, il faut le rappeler.
Oui, donc je pense que de son côté, il va continuer de jouer ce rôle de sage dans lequel il se plaît beaucoup. Et pour le coup, je pense qu'il ne sortira pas si vite que ça de l'ambiguïté. Et il continuera d'entretenir la position tant qu'elle lui profite. Et à la fin, je pense que c'est lui qui aura le dernier mot. Parce que mine de rien, même aujourd'hui à la tête de l'État, quand on voit l'échiquier qui a été constitué, le PDCI n'est pas si perdant que cela. Et ça, c'est encore grâce à Henri Conan-Bédié.
Oui, mais en même temps, le poste de vice-président, on trouve que c'est un PDCI qui est tiède.
Bien sûr, mais il n'a pas intérêt à ce qu'une tête déborde. Je ne pense pas qu'il a fait nommer le vice-président pour que le vice-président devienne l'interlocuteur privilégié. Il l'a nommé pour garder une capacité de décision et d'inflexion des décisions fortes. Et cette capacité-là, il la gardera pendant longtemps encore.
Un dernier mot, Sandy.
Peut-être, qui sait, Henri Conan-Bédié lui-même, himself, n'a pas renoncé à être candidat.
Parce qu'il n'y a plus de limitation d'âge.
Parce qu'encore une fois de plus, la Constitution actée en octobre 2016 en Côte d'Ivoire ne limite plus l'âge des futurs capitaines de ce beau pays.
C'est la fin d'Afrique Presse. Merci à Hassan Diop de Radio France Internationale, à Vincent Jeu de l'Express et à Louis Magloire Kemayou de l'Association de la Presse Panafricaine, ainsi qu'aux équipes techniques et rédactionnelles d'Afrique Presse. Vous pouvez revoir et réécouter cette émission sur les sites de RFI et de TV5 Monde, ainsi que sur l'appli TV5 Monde Afrique.